Eh bien, bonjour, frères et sœurs, soyez les bienvenus et joyeux sabbat à vous tous. Peu de temps après le premier jour de la Pentecôte de l'ère du Nouveau Testament, il y a eu, et c'est préservé pour nous dans Actes chapitre 3, une anecdote ou une histoire ou des faits qui se sont déroulés, qui sont fascinants et aussi qui soulignent une phrase particulière que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Alors, je propose que nous commencions ensemble à lire Actes chapitre 3, et nous allons voir un grand miracle qui a été fait, et un enseignement que l'apôtre Pierre a octroyé aussi. Actes chapitre 3, donc, au verset 1. Donc, nous sommes dans le contexte de quelques jours après la fête de la Pentecôte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « « Je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Et on peut imaginer la joie de cet homme si, pour la première fois depuis peut-être toute sa vie, il peut marcher et sauter, eh bien, c'est ce qu'on ferait, n'est-ce pas? On sauterait de joie. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous sommes dans le contexte, donc, juste après la Pentecôte, le commencement de l'Église de Dieu, de notre ère. Dieu avait donné son Saint-Esprit, et Pierre s'est mis à prêcher l'Évangile. C'est ce que nous voyons ici. Il avait déjà commencé dans Actes chapitre 2. Et ici, dans Actes chapitre 3, il continue à prêcher l'Évangile. Explique la puissance de Jésus-Christ, le pardon des péchés, et ainsi de suite. Pierre, ici, s'adressait à une foule qui représentait une nation particulièrement privilégiée. Il venait, pendant les années précédentes, d'avoir le Messie, celui qui était promis par Dieu, parmi eux. Probablement tous ces gens-là avaient entendu prêcher Jésus-Christ, puisque les foules le suivaient partout où il allait. Pierre devait expliquer comment la guérison de ce boiteux avait eu lieu. C'était par la puissance de Jésus-Christ que cela s'était accompli. Pierre a rappelé à ces gens qu'il avait renié Jésus, mais il dit aussi que c'était par ignorance et que Dieu l'avait prévu ainsi et que Dieu l'avait ressuscité. Pierre souligne également que Jésus a accompli les prophéties à son sujet, au sujet du Messie. Il était bel et bien l'accomplissement des prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament. Et puis, il les a exhortés à se repentir afin que leurs péchés puissent être pardonnés et que Dieu puisse leur envoyer des temps de rafraîchissement. C'est ça que nous avons lu vers la fin de ce que nous venons de lire au verset 20. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est « Quels sont ces temps de rafraîchissement ?» De quoi s'agit-il ici quand Pierre dit « Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ?» Quels sont ces temps de rafraîchissement ? S'agit-il d'une prophétie pour un temps futur ou est-ce que c'est quelque chose qui peut nous arriver déjà aujourd'hui ? C'est ce que nous voulons voir. Comment est-ce que ces temps de rafraîchissement sont liés au repentir, à la conversion et au pardon de nos péchés, puisque Pierre les lit ensemble? Repentez-vous pour que ou afin que ces temps de rafraîchissement puissent venir. Tâchons de comprendre ce que la Bible enseigne à ce sujet. Tout d'abord, le mot qui est traduit par « rafraîchissement » dans le grec désigne, selon le commentaire d'Albert Barnes, toute forme de rafraîchissement, de repos ou de délivrance des maux de toutes sortes. Le rafraîchissement ici peut être assimilé au fait de boire de l'eau fraîche lors d'une journée chaude. C'est ça, un rafraîchissement. Pierre a fait cette déclaration à des gens qui vivaient dans la Judée, ou en Israël du moins, et à Jérusalem en particulier, où il y a un climat très chaud. Pour une bonne partie de l'année, même très très chaud. Et un des grands plaisirs que les gens pouvaient avoir à l'époque, c'était de boire de l'eau fraîche lors d'une journée chaude. Quand Pierre a parlé de temps de rafraîchissement, ils ont bien compris le sens de ce mot. Le rafraîchissement comme un verre d'eau fraîche, quand il fait chaud et quand on a chaud, quand on transpire, c'est un grand plaisir, c'est une joie. Une idée courante à l'époque aussi, parmi ces Juifs qui avaient leurs yeux tournés vers les prophéties du rétablissement du royaume à Israël, ils comprenaient que le Messie devait venir chasser les ennemis, établir le royaume de Dieu, que eux ils ont compris comme le royaume d'Israël, et que finalement, à ce moment-là, le peuple d'Israël aurait du repos et de rafraîchissement. Il comprenait que ce serait un repos physique et un rafraîchissement physique. Ils ont, selon Albert Barnes de nouveau, anticipé la période accomplissant la bonne nouvelle ou l'évangile, c'est-à-dire le retour de Christ, ou pas le retour de Christ, mais la venue du Messie, puisqu'ils ne comprenaient pas qu'il allait y avoir deux venues, mais que ce serait une période quand ils auraient du repos de leurs ennemis tout autour, alors qu'à l'époque ils étaient occupés par l'ennemi. Ils auraient un répit des maux des oppresseurs et de la guerre. Ils auraient une grande prospérité et une grande paix nationale. Ça, c'est encore une fois selon le commentaire Barnes. Et effectivement, il y a un volet prophétique à ces temps de rafraîchissement. Considérons certaines des prophéties que nous voyons dans l'Ancien Testament à propos de la période représentée par l'établissement du royaume de Dieu. Je vais prendre d'abord psaume 96. Psaume 96. La Bible parle effectivement en termes de rafraîchissement quand le royaume de Dieu sera établi sur terre. Psaume 96, à partir du verset 10. Psaume 96, verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, et tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Ici, nous voyons une prophétie que non seulement les êtres humains, mais toute la création terrestre sera rafraîchie, sera dans la joie quand le royaume de Dieu sera établi. Même la nature va se réjouir tant il y aura un changement salutaire sur ce que nous verrons autour de nous. Cette réalisation future de ces prophéties concernant l'établissement du royaume de Dieu montre que le juste jugement de Dieu apportera la joie. Nous serons rafraîchis dans nos esprits par la justice que nous verrons enfin. Aujourd'hui, nous vivons un monde où nous ne voyons que peu de justice, ou parfois pas du tout. Mais là, nous verrons la justice, et ça sera un rafraîchissement. Ésaïe aussi décrit cette période, Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. La vie alors sera comme si on buvait un verre d'eau fraîche lors d'une journée chaude. Et ça sera partout sur la terre. Ésaïe chapitre 51. Verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Les déserts vont fleurir, c'est-à-dire qu'il y aura de l'eau en abondance dans ces endroits aujourd'hui arides, et cette terre assoiffée sera abreuvée. Il y aura une terre rafraîchie qui deviendra semblable au jardin d'Éden, tellement ça va changer. Ce sont des temps de rafraîchissement qui sont promis et qui vont venir après le retour de Jésus-Christ, quand le royaume de Dieu sera établi. Prenons également Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, verset 10. Jérémie chapitre 30, verset 10. Jérémie 30, verset 10. « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » Encore une fois, nous avons une prophétie qui sera accomplie après le retour de Jésus-Christ. Ceci montre en passant, soit dit en passant, que nous avons une preuve ici qu'il y aura une captivité future pour les enfants de Jacob de nouveau, et qu'au retour de Jésus-Christ, ces peuples seront libérés et ils vont revenir de cette captivité. Et quand ils vont revenir dans le pays que Dieu va leur donner, il jouira, Jacob, du repos et de la tranquillité. Il y aura un grand rafraîchissement, une libération de cette servitude qui sera amère pour les gens à ce moment-là. Jérémie illustre ici le moment quand Israël aura du repos et de la tranquillité, et personne ne les troublera. Imaginez une époque comme cela. Ça n'existe pas aujourd'hui. Où que l'on soit dans le monde, on doit craindre que quelqu'un va venir nous troubler, que ce soit les gens de nos propres pays, que ce soit des agresseurs venus de l'extérieur, des criminels ou autres. Mais là, personne ne va troubler Jacob. Ce sera un moment magnifique. Voyons aussi ce que le prophète Joël dit à propos de cette époque. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 18. Joël chapitre 3, verset 18. « En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes. Le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Encore une fois, dans un pays aride comme Israël, ce qu'on recherche le plus, c'est de l'eau. Et là, il y aura de l'eau en abondance. Il y a même une source qui va sortir de la maison de l'Éternel pour arroser les jardins. Et les jardins, les déserts vont fleurir. C'est un petit peu, nous avons un avant-goût de cela aujourd'hui en Israël, puisque avec des techniques modernes d'irrigation, les Israéliens aujourd'hui ont réussi à faire fleurir certaines parties des déserts de leur pays. Quand on arrive à la frontière avec la Jordanie ou avec le Liban, on voit, du moins dans les moments quand j'ai visité ces lieux, une grande différence. C'est très vert jusqu'à la frontière, côté israélien, et quand on voit, on traverse la frontière, ça redevient un désert, puisque ces techniques ne sont pas employées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau disponible. On peut tirer sur le lac de Galilée, mais on ne peut pas trop tirer là-dessus, puisqu'il y a une quantité limitée d'eau. Et déjà, pour préserver ou conserver l'eau, on ne permet pas à beaucoup d'eau d'entrer dans le Jourdain, qui était à l'époque une rivière qui était difficile de traverser, bibliquement. Mais maintenant, ils ont fermé la sortie du lac de Galilée pour préserver ces eaux. Et le Jourdain, c'est plutôt des flaques d'eau, ça et là, maintenant. Ça ne coule pas vraiment comme ce fut le cas avant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans cette région. Il ne peut pas faire fleurir tous les déserts, ils n'ont pas assez d'eau. Mais à cette époque-là, à l'époque dont le prophète Joël parle ici, l'eau va sortir dans la maison de l'Éternel, arroser les vallées, et tout le pays pourra fleurir, parce que Dieu va donner de l'eau en abondance. Ce sera un vrai rafraîchissement pour la terre et pour les gens qui vont habiter là. Donc, dans un sens prophétique, les temps de rafraîchissement vont venir après le retour de Jésus-Christ, quand le royaume de Dieu sera établi. Ce sont des temps de rafraîchissement physique, spirituel aussi, bien sûr, avec la connaissance de l'Éternel qui sera abondamment disponible. Mais tout d'abord, un sens physique de rafraîchissement. L'eau va couler. Il y aura de l'humidité, de la verdure partout dans ce pays qui est aujourd'hui assez désertique. Mais il y a aussi dans la Bible un autre sens de ce rafraîchissement, un sens dans lequel le rafraîchissement vient maintenant, aujourd'hui, à ceux qui se repentent. Quand nous nous repentons devant l'Éternel, nous recevons de lui un rafraîchissement également. Le message de repentance et de conversion que Pierre a prêché est aussi important pour nous aujourd'hui, à l'époque quand Pierre a prononcé ces paroles. Regardons quelque chose que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous vivons une époque plutôt troublée aujourd'hui. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Les cavaliers de l'Apocalypse chevauchent et vont continuer de chevaucher. Mais même au milieu d'une époque troublée, même au milieu de difficultés et d'épreuves, nous pouvons avoir un rafraîchissement qui nous vient de la part de Dieu. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça peut paraître un peu étrange à première vue, mais c'est possible d'avoir la paix en Jésus-Christ au milieu de grandes épreuves qui nous entourent et qui nous frappent. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous avons nos tribulations parfois dans le monde. Mais Jésus a dit, vous pouvez avoir la paix en moi. Malgré ce qui se passe autour de nous, nous pouvons avoir la paix quand nous avons remis nos vies entre les mains de l'Éternel. Et ça, c'est une autre sorte de rafraîchissement qui nous est disponible aujourd'hui. Il y a du rafraîchissement dans le sens d'avoir la paix d'esprit. Nous avons une paix d'esprit quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous sommes baptisés, quand nous recevons le don du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu commence à nous donner sa paix à l'intérieur de nous. Nous avons une paix d'esprit, sachant que nous appartenons à Dieu, qui s'occupera de nous. Et par la présence de son Saint-Esprit, Dieu nous donne même une paix, je vais dire surnaturelle, une paix miraculeuse qui nous vient par l'activité du Saint-Esprit. Regardons une chose que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 15. Romains 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il y a une consolation. C'est un autre mot qui est lié à l'idée de rafraîchissement. Il y a une consolation que donnent les Écritures. Voilà pourquoi il est important pour nous d'étudier régulièrement et personnellement la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette consolation, parce que nous aurons, comme nous avons déjà vu et comme nous le savons par l'expérience, des difficultés à affronter dans la vie. Mais il y a une consolation qui nous vient quand nous étudions, quand nous plongeons les regards dans la parole de Dieu. Il nous faut de la patience, il nous faut de la patience, mais Dieu nous donne une consolation. Je vais prendre aussi Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. C'est le verset 31 qui nous intéresse particulièrement. Le contexte ici est intéressant puisque le contexte, c'est la persécution contre Paul, contre les autres qui étaient avec lui. Le verset 23 de Actes 9 dit « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. » Ça, c'est pas une époque très paisible de savoir qu'il y a des gens qui non seulement profèrent des menaces, mais ils s'accordent, ils planifient ensemble pour tuer, pour vous tuer. C'était le cas pour Paul ici dans ce contexte. Mais au verset 31, nous lisons « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Même dans le contexte de complot contre la vie des serviteurs de Dieu, l'Église pouvait être en paix, pouvait avoir la paix sous la protection divine, et pouvait croître même dans des circonstances qui pour nous ne sembleraient pas très paisibles. C'est quand nous nous repentons et nous mettons nos vies entre les mains de Dieu, nous savons que c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui dirige nos pas, là nous pouvons avoir vraiment une paix intérieure. Nous sommes rafraîchis dans ces circonstances. Comme David l'illustre très bien dans le psaume 51. Psaume 51. C'est au moment où David est revenu à lui après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, après avoir fait mettre à mort son mari, il a commis un meurtre pour essayer de se protéger. Et quand David est revenu à lui, il savait ce qu'il devait faire. Il devait se repentir, il devait se jeter sur la miséricorde de l'Éternel. Et il savait que Dieu allait le pardonner. Psaume 51 à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et Dieu a exaucé ses prières. David s'est jeté sur la miséricorde de Dieu et son péché a été pardonné. Cet exemple de repentance dans cette prière très humble de David, quand il a reconnu finalement l'horreur de son péché, ce qu'il avait fait, il a prié et il a retrouvé la paix en se remettant à l'Éternel. Il savait que son péché était pardonné, il était lavé et il pouvait recommencer à vivre sa vie, ayant été rafraîchi. David savait que quand il était plongé dans une situation si sale, la seule solution pour lui, pour avoir une paix antérieure et rafraîchissante, était d'être restauré à la faveur de Dieu, d'être restauré en faveur devant Dieu. Et Dieu est toujours prêt à nous accorder cette faveur, à pardonner nos péchés quand nous nous repentons sincèrement, à nous laver d'une eau pure et de nous remettre sur le bon chemin, pour que nous puissions continuer à marcher avec lui. Dieu ne change pas, et Dieu dit qu'il effacera nos péchés. Et ça, c'est une vérité magnifique, Parfois, il y a des gens qui ont du mal à croire ça. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? J'ai fait des choses tellement terribles. Est-ce que vraiment il a pu me pardonner? Mais le Dieu de la Bible dit qu'il nous pardonne. Quand nous nous repentons sincèrement devant lui, nos péchés sont vraiment effacés, pour toujours. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Verset 25. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, c'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parce que Dieu est amour, il est prêt à nous pardonner de nos péchés et de nous aider à retrouver le bon chemin. Il nous remet sur le chemin quand nous tombons à côté, à droite ou à gauche. Et le psaume 103 dit très poétiquement comment Dieu fait avec nous. Psaume 103, à partir du verset 11. Psaume 103, verset 11. Prenons le verset, commençons au verset 10 plutôt. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et en fait, combien de distance y a-t-il entre l'Ouest et l'Est? Eh bien, c'est l'infini. Dieu éloigne nos péchés complètement de nous. Nos péchés ne sont plus à notre charge. 1 Jean chapitre 1, verset 8 dit, c'est un passage bien connu, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. » C'est comme ça qu'agit notre Père céleste. Dans Jérémie chapitre 2, il y a une autre image qui est intéressante à considérer. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Dieu se compare ici à une source d'eau vive qui jaillit de la terre et qui abreuve la soif de son peuple. Son peuple n'a pas toujours profité de ce que Dieu leur offrait, mais il était toujours là, disponible pour eux. Jérémie chapitre 2, verset 13. « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et en fait, c'est ça que les êtres humains font quand ils abandonnent le vrai Dieu pour suivre leurs propres idées. Ils laissent une vraie source d'eau vive et ils creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais notons que Dieu se compare ici à une source d'eau vive. Il est la source des eaux spirituelles qui peuvent nous laver et nous purifier de nos péchés. Je ne sais pas si vous avez eu cette occasion, probablement vous l'avez eu à un moment donné ou à un autre, de vous baigner dans une rivière. Je me souviens, quand nous avons commencé le premier camp des jeunes en France, au début des années 80, on faisait avec les moyens du bord. On n'avait pas encore un beau site de camp, comme on pouvait avoir plus tard. On faisait avec quelques tentes qui appartenaient à des particuliers. On creusait un trou pour la toilette. Mais on n'avait pas d'eau courante. On n'avait que l'eau dans des bidons. Donc, il n'était pas question de vraiment prendre une bonne douche. On n'avait pas les moyens à notre disposition. On se lavait avec des gants de toilette. Et ça marchait pendant quelques jours, mais après un moment, je me souviens, j'en avais vraiment assez. Il fallait que je me lave comme il faut. Je voulais être rafraîchi. Et alors, avec un autre membre de l'encadrement, j'ai pris un savon et une serviette. Nous sommes descendus à pied du site dans la montagne où on était, jusqu'à une rivière qui coulait dans le village en bas. Et nous sommes allés dans nos maillots de bain sous le pont des voitures pour ne pas attirer trop d'attention. Et on s'est lavé comme il faut, dans une rivière. L'eau était fraîche, elle était bonne. Et quand nous sommes sortis de cette rivière, on se sentait vraiment propre, lavé. C'était un sentiment magnifique. C'est probablement la première fois de ma vie que j'ai dû me passer de l'eau courante pendant plusieurs jours comme cela. Et ce souvenir me marque encore. Je me souviens quand je suis sorti de l'eau, oh, c'était magnifique. J'étais tellement rafraîchi par cette expérience. Eh bien, c'est le genre de rafraîchissement spirituel que Dieu nous offre. Nous pouvons nous sentir spirituellement propres, nos péchés lavés, enlevés de nous. Et ça, c'est une sensation magnifique. Tite, Paul en a parlé quand il a écrit à Tite également. Regardons l'épître de Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, à partir du verset 5. Prenons le verset 4. Tite chapitre 3, verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Il y a un lavage de la régénération. Il y a un renouvellement qui a lieu quand les eaux du baptême sont appliquées à nous, quand le pardon de Dieu nous est donné abondamment. Ça vient par la présence du Saint-Esprit en nous et par le pardon que Dieu nous donne. Nous voyons dans tous ces passages un parallèle entre un rafraîchissement physique et le rafraîchissement spirituel que Dieu nous accorde en nous lavant de nos péchés, que nous puissions nous sentir tout propres devant Dieu. Regardons aussi Philippiens chapitre 4 à ce sujet. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Prenons le verset 6 pour mieux comprendre le verset 7. C'est ça que nous voulons voir en particulier. Verset 6 dit: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment rafraîchi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Quoi qu'il arrive autour de nous, nous pouvons avoir la paix qui nous vient de Dieu dans nos cœurs. Et ça dépasse l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas raisonnable parfois. Ça dépasse la raison que dans des situations d'épreuves pénibles, un chrétien puisse avoir une paix, une tranquillité intérieure. Et pourtant, je suis certain que vous avez vu des exemples comme ça autour de vous, dans l'Église. Moi, j'en ai vu aussi. Des personnes qui gardent un calme et une paix dans leur cœur, alors qu'ils sont très malades ou ils font face à une autre épreuve. Lorsque nous nous repentons et nos péchés sont pardonnés par Dieu, nous pouvons vraiment jouir d'une tranquillité d'esprit qui est rafraîchissante. Contrairement à la tourmente et à la confusion que nous endurons avant notre conversion, nous pouvons être en paix. C'est une promesse de la part de Dieu qui solidifie notre relation avec lui. Regardons Apocalypse chapitre 3 à ce sujet également. Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 5. Un des buts du livre de l'Apocalypse était d'encourager nos frères et sœurs au premier siècle qui passaient par une période de persécution, les encourager à persévérer, à mettre leur confiance en Dieu, à lever le regard, ne pas voir uniquement les problèmes du moment, mais de regarder le royaume de Dieu qui allait venir et les promesses de rafraîchissement à venir. Apocalypse chapitre 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Comme j'ai dit, Jean a reçu l'Apocalypse en partie, c'est en partie pour nous à notre époque, c'est pour les chrétiens de toutes époques, mais c'était aussi pour les chrétiens au premier siècle qui faisaient face à une persécution généralisée dans l'Empire romain. Et Jésus voulait les encourager de continuer, de persévérer dans leurs travaux, dans leurs efforts spirituels, pour surmonter la faiblesse et pour résister à Satan et aux mauvaises choses qui se passaient dans le monde. Parce que Dieu promet aux vainqueurs, à ceux qui vainquent, ceux qui surmontent ces choses-là, qu'il ne va pas se souvenir de leurs péchés. Et il va faire en sorte que leur nom soit inscrit dans le livre de vie pour toute l'éternité. Quand nous avons cette vérité devant les yeux, eh bien, nous pouvons oublier, nous pouvons ne pas trop nous concentrer sur les épreuves qui nous arrivent dans cette vie. Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et finalement, il va donner l'occasion à chaque être humain de devenir un membre de sa famille divine et éternelle. Les personnes appelées dans l'avenir devront suivre le même chemin que nous suivons aujourd'hui. Ils devront se repentir. Ils devront se faire baptiser. Ils devront recevoir le Saint-Esprit. Et ils vont alors recevoir le même rafraîchissement par Christ. Ils vont recevoir le salut comme nous sommes en train de le faire maintenant. En fait, je reviens dans Actes chapitre 3 un instant pour voir autre chose qui s'y trouve, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 21. Nous avons lu le verset 20, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Poursuivons verset 21 maintenant. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le rétablissement de toutes choses, c'est similaire à ces temps de rafraîchissement qui vont venir. Ça sera rafraîchissant quand toutes choses seront rétablies. Toutes choses seront rétablies. Le mot dans le grec ici, rétablissement, signifie restaurer une chose à son état antérieur. Comme par exemple le fait de remettre un membre en place, un membre qui était déboîté et qui fait mal et qui ne fonctionne pas bien. On va le rétablir, on va le remettre en place. On va résoudre des choses qui ne vont pas, les maux dans le monde. Et on va revenir à un état de perfection. Et ça sera un rétablissement et un rafraîchissement absolument magnifique. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. Nous l'avons lu le verset 3 précédemment, mais relisons ce verset avant de prendre un autre. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques vont remplir le monde. Vous imaginez ça, un monde où vous pouvez aller n'importe où. Je ne sais pas si on aura des avions à ce moment-là, mais voyager dans un autre continent et vous allez entendre chanter des cantiques à l'Éternel. Ça sera vraiment un monde magnifique. Lisons aussi le verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Là, les gens vont tourner le regard vers l'Éternel. Là, il s'agit d'un temps de rafraîchissement futur non seulement physique, mais aussi spirituel. Il y aura des temps de rafraîchissement pour tous les êtres humains sur la terre parce qu'ils vont pouvoir enfin connaître le vrai Dieu, l'Éternel, et avoir une relation avec lui. Quand Jésus-Christ établira son royaume sur la terre, il y aura la paix et la sécurité pour tous les peuples. Réconfort et la joie seront pour tous les êtres humains, de toutes les nations, de tous les pays, au monde entier. Et Zacharie, chapitre 13, nous dit ce qui va se passer à cette époque également. Zacharie, chapitre 13, verset 1. Zacharie, chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Il va y avoir une source d'eau qui va couler de Jérusalem et ça va s'étendre progressivement à travers toutes les nations. Ça représente un nettoyage spirituel, la suppression du péché et des souillures du péché qui seront pardonnées et lavées. Et ça sera le cas pour tous les habitants de la terre. Romains chapitre 8, verset 20 nous dit que la création tout entière a été soumise à la vanité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mais seulement temporairement. Seulement jusqu'à un moment où les enfants de Dieu seront révélés. Et là, la création ne sera plus soumise à la vanité, comme c'est le cas aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 13. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. C'est ici où nous sommes maintenant. C'est notre état présent. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça sera, on peut le dire, le rafraîchissement ultime. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, plus de traces du péché et de souffrance, plus du tout. Et il y aura la justice, partout. Aujourd'hui, il faut vraiment chercher pour trouver la justice parmi les hommes. Mais à ce moment-là, ça sera la justice partout. Aucune injustice. Et lisons un de mes passages préférés dans la Bible, dans Apocalypse 21. Nous voyons le résultat ultime de ce rafraîchissement spirituel qui aura lieu pour tous les êtres humains. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu à ce moment-là. » Le péché a apporté à l'humanité la plupart de ses souffrances actuelles. Le monde vit aujourd'hui dans un état vraiment délabré. Mais nous avons des prophéties magnifiques de guérison des résultats du péché. Et le monde entier va connaître la paix, l'ordre et la beauté que Dieu a voulu pour nous depuis le moment quand il a conçu l'idée de créer des êtres humains. Alors, frères et sœurs, comprenons bien ce que la Bible veut dire par des temps de rafraîchissement. Il y aura des temps de rafraîchissement physique, la terre sera reformée, deviendra vraiment fertile avec beaucoup d'eau qui coulera partout. Ça sera un temps de rafraîchissement de nos difficultés d'aujourd'hui, la terre sera reformée au retour de Jésus-Christ. Mais comprenons que nous pouvons aujourd'hui déjà connaître ces temps de rafraîchissement dans le sens spirituel, dans le sens où Dieu pardonne nos péchés et nous pouvons paraître devant lui lavés et purs de nos péchés anciens. Et comprenons aussi qu'il y aura un temps de rafraîchissement spirituel, que cet rafraîchissement dont nous parlons sera étendu à toute la population de la terre après le retour de Jésus-Christ. Et nous pourrons tous dire à ce moment-là ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Allons souvent devant le trône de la grâce pour demander pardon de nos erreurs, pour que Dieu puisse de nouveau nous rafraîchir spirituellement en pardonnant nos péchés. Et rappelons-nous que dans l'avenir, selon le plan magnifique de l'Éternel, ces temps de rafraîchissement viendront sur chaque être humain qui a jamais vécu. Frères et sœurs, je vous souhaite vraiment un excellent sabbat.